Le hockey est un sport presque aussi vieux que la Confédération canadienne, un sport qui s'est développé, qui s'est adapté au fil des années, si bien que maintenant de plus en plus de patineurs aveugles chaussent les patins, un sport qui ambitionne même à devenir une discipline paralympique. Comment? On le découvre au Signal. C'est probablement la rentrée en onde la plus mouvementée que j'ai vécue de ma courte carrière comme animateur chez Canal M, puisque quand on parle de signal, ben là, il y a un signal d'alarme sonore hein, qui vient d'être déclenché dans l'établissement où nous nous trouvons. Mais semble-t-il que tout est réglé et que pile poil, on peut rentrer en onde. Et je suis bien content parce qu'on avait des invités en studio déjà prêts à parler. À ma gauche, ailier gauche, Gilles Ouellette, également joueur des Hiboux, conseiller à l'intégration à l'UQAM. Bonjour Gilles.
Bonjour Kevin.
Vous allez bien?
Oui, toi?
Oui, ça va, merci. Et à vos côtés également, Steve Vezo de l'UQAM. Créateur, chercheur, on peut le dire ainsi, de la fameuse rondelle sonore qui est peut-être la clé qui va servir à faire du sport, du hockey sonore, un sport paralympique.
Mm-hmm. Bonjour Kevin,
bonjour.
Merci de l'invitation.
Ça fait un grand plaisir. Vous le savez peut-être pas, mais en ce moment à Pittsburgh, il y a un grand tournoi de hockey sonore qui se déroule, commandité même par les Pingouins de Pittsburgh. Et un petit peu plus tard à l'émission, on va aller rejoindre un des joueurs de la délégation québécoise des Hiboux, qui est l'équipe sonore du Québec, qui s'est rendu là-bas pour jouer. Il va nous expliquer un peu comment le tournoi va se dérouler pour eux. Et il est également vice-président de Hockey Canada Sonore. Il va nous expliquer en fait comment ce sport pourrait un jour se retrouver sur les patinoires paralympiques. Mais avant, pour les gens qui ne connaissent pas le hockey sonore, Gilles, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça consiste à quoi?
Ben, ça consiste au hockey traditionnel, mais on a adapté quelques règlements. La première priorité. Distinction, c'est que les joueurs sont handicapés visuels. Hein? Mm-hmm. Donc, au titre de la loi reconnue comme personne handicapée visuelle, généralement, les gardiens de but sont complètement non-voyants. Les défenseurs voient un peu ou très peu. Les joueurs d'attaque, je vois un petit peu mieux. Et c'est la grande partie. Donc, les joueurs sont handicapés visuels. Un des règlements qu'on a adapté, qu'on ne voit pas vraiment dans la Ligue nationale de hockey et dans toutes les ligues amateurs, c'est que lorsqu'un joueur s'en va en zone offensive, dépasse la ligne bleue, il doit obligatoirement faire une passe à son coéquipier avant de pouvoir tirer au but.
Ouais, pour donner une chance au gardien.
Pour donner une chance au gardien de repérer la rondelle qui fait un son, pouvoir se déplacer.
Un autre règlement, c'est que vous n'avez pas suivi la LNH quand elle a retiré le règlement interdisant les deux passes. Là.
Non, on n'a pas encore retiré ce règlement-là. On maintient le règlement des deux passes, des deux lignes.
Uh-huh. Parfait, puis ben là je l'ai dit en introduction, vous êtes ailier gauche.
Ouais.
Là vous avez dit qu'il existait en fait une espèce de parallèle entre la vision, le résidu visuel et les positions.
Ouais.
C'est donc dire que vous avez encore un certain résidu visuel, Gilles?
Moi j'ai aucune vision centrale, j'ai toute ma vision périphérique.
Puis là, bon. Pour repérer vos coéquipiers sur la glace, vous y prenez comment? Vous vous fiez à l'instinct ou...
Il y a beaucoup d'instinct, on a développé tout nos autres sens, notre écholocation également. Notre proprioception de la perception de notre corps dans l'espace et aussi par la voix. Hein, on va beaucoup se parler sur la glace, se donner des cues, se donner des codes pour pouvoir se repérer.
Back check.
Ouais, back check. être à ta gauche, être à ta droite. Exemple aussi, on connaît beaucoup les différences de vision de chaque coéquipier. François, qu'on va avoir en onde tantôt avec nous, qui est à Pittsburgh,
uh-huh.
a lui une vision centrale. À l'inverse de moi. Donc, à nous deux, on fait une bonne vision. Moi, je vois la rondelle à mes pieds, mais François a d'être suivi à l'apercevoir. Fait que souvent, quand François va, quand on est dans la même équipe, si on est adversaire, je ne vais pas lui dire, là. Mais quand on est dans la même équipe, je lui dis, François, à tes pieds, la rondelle. Puis comme, à l'inverse, moi, la rondelle, lorsqu'elle est 5 pieds devant moi, 6 pieds devant moi, là, je la perds de vue, je l'entends, je vais seulement qu'au son. Donc, François, s'il me fait une passe, il va crier Gilles, en me disant pour que, hop, la passe s'en vient.
Wow, c'est vraiment... Puis là, bon, on a parlé d'écholocation, je trouve ça tout à fait fascinant. Est-ce que l'écholocation, Sur la glace, c'est plus facile de se repérer parce que je sais que des fois, les conditions météorologiques peuvent aider à faire en sorte que le son reverb un peu plus ou un peu moins, là.
Mais comme on joue principalement toujours à la même arena, les gens s'habituent, se développent. C'est sûr qu'il faut s'habituer. Là, lorsqu'un nouveau joueur vient jouer, il faut qu'il apprenne à développer toute cette écolocation-là. Mais la bande, les fenêtres, les baies vitrées de la bande, ça donne tous des indices. Lorsque le son est loin, quand on entend la rondelle frapper sur le bord de la bande, ça nous dit des indices. On sait qu'elle doit être à tel endroit, telle perception. Parce que moi, lorsque je suis allié gauche, puis lorsque la rondelle est complètement à droite, je la vois absolument pas. C'est vraiment juste au son que je me déplace.
Et vous aviez, votre dernier match remontait à 1982. Vous êtes devenu, vous avez, en fait, vous avez reçu votre diagnostic de handicap visuel en 1985. Est-ce qu'à ce moment-là, vous pensez qu'un jour, vous allez pouvoir rechausser les patins et renouer avec ce plaisir qu'est le hockey?
Non, à ce moment-là, quand ça m'est arrivé, je pensais, je connaissais pas les bouts, je pensais pas que l'hockey adapté existait, l'hockey sonore existait. C'est rendu juste en 90, en 91, lorsque j'ai plus connu la communauté handicapée visuelle, que j'ai connu qu'il y avait un club d'hockey sonore qui existait au Québec puis au Canada.
Puis qu'est-ce qui vous a le plus manqué du hockey? Est-ce que c'est l'esprit de camaraderie? Est-ce que c'est l'odeur du vestiaire?
Steve est venu quelques fois avec nous au voyage. Je suis pas sûr qu'il apprécie l'odeur du vestiaire. Mais non, c'est pas vraiment l'odeur du vestiaire, mais vraiment l'esprit de camaraderie, l'esprit de corps, l'esprit d'équipe, de tous travailler ensemble dans un seul et même but, de gagner, d'avoir la victoire, d'avoir du plaisir. C'est vraiment ça, de se donner au maximum pour atteindre un but qui est de, si possible, à la fin de la sirène finale, d'avoir la victoire ou d'avoir bien joué aussi. Une satisfaction personnelle.
Steve, maintenant, ben, vous entrez en jeu, en fait, avec la rondelle sonore. Est-ce que vous pouvez nous parler, en fait, comment vous êtes venu en contact avec le monde du hockey sonore et du handicap visuel?
Oui, tout à fait. Ben, en fait, à l'UQAM, la particularité qu'on a comme chercheur, c'est qu'on travaille avec les gens du milieu. Donc, on doit redonner du temps de notre expertise à la communauté. Et les hiboux sont venus voir l'UQAM en disant, bon, on a en tête un projet de rondelle électronique sonore. Est-ce que à l'intérieur de l'UQAM, il y aurait des chercheurs qui pourraient s'intéresser à la chose pour qu'on la développe? On avait l'école de design, et il y a les gens en microélectronique au pavillon des sciences, et puis il a dit, bien, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une manière de réunir ces gens-là et travailler sur le projet. Donc, c'est comme ça que j'ai été approché du côté via le vice-rectorat à la vie académique avec Marc Turgeon, qui lui a fait le relais. Il connaissait des gens sur le terrain et puis il nous a appelé à l'école de design puis il a dit, est-ce que vous auriez un intérêt à développer tout ça? Et bien sûr, c'est un magnifique projet.
Et vous l'aviez l'intérêt parce que vous aimiez le hockey, parce que vous êtes un féru de technologie ou...
En fait, simplement parce que, bon, d'une part, moi-même, dans ma pratique, j'ai fait, bon, je travaille le design de produits, design d'objets, donc premier élément. Deuxième élément, mon champ de recherche, c'est l'ergonomie, santé au travail, nécessairement. Et puis, y avait aussi, bien sûr, l'intérêt d'embarquer, d'aider. Sur le plan de ma recherche, j'essaie de voir comment on peut aider des petites entreprises à développer des produits. Si on travaille avec Nike, c'est assez facile de faire du design, mais quand on est un utilisateur et puis qu'on veut développer un produit, oups, on ne sait plus les mêmes games. Donc, sur le plan de la recherche, il y avait aussi ce
Ce
volet-là plus
défi.
théorique, ce défi-là. Et parlant de défi, la rondelle en elle-même, sur le plan du design, c'était un défi incroyable, c'est-à-dire faire résister une rondelle.
Au puissant tir de Gilles et de François.
Oui, entre autres, il y en a d'autres, Ryan.
Ouais, j'ai pas le tir le plus puissant, là, mais.
Ouais, mais.
Parce qu'avant, c'était une canisse, là, c'était une espèce de qu'on utilisait qui résistait au tir, là, les vieilles canettes de soupe à pois ou de soupe Campbell. C'est bien ça, Gilles?
C'était les cannes de conserve, plus de 48 onces de jus de tomate, là.
Les
Donc,
grosses conserves.
les grosses cannes de conserve. Qu'on fait un gros party barbecue, qu'on peinture en noir durant l'été, puis qui durait. On a passé 8 par partie.
Et la rondelle sonore, on la fait pas jouer en ondes parce que son son est évidemment très strident, là. Il est pas, elle n'a pas été conçue pour être jouée dans un studio, mais vraiment dans un aréna où le son peut amplifier justement le son de la rondelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que vous entrevoyez maintenant dans le futur de cet objet-là? Est-ce que vous aspirez un jour qu'elle soit utilisée dans plusieurs pays et qu'elle dépasse les arénas des Hiboux de Montréal?
Ah, ben oui, très, très certainement. Mais en fait, je vous dirais d'expérience, récemment, on a réussi à rallier la communauté, en fait, les différentes fédérations sportives au niveau du hockey sonore dans un tournoi où on a testé la rondelle à Toronto, au Garden de Toronto. Et puis, pour une des premières fois, on a réussi à faire un consensus sur un objet. Parce que, bon, dans l'Ouest canadien, ils utilisent plus la rondelle de métal, un disque de métal. Et dans l'Est, c'est plus la conserve. Et puis finalement, les équipes américaines se sont ralliées aussi. Alors, Hockey USA ont trouvé le produit intéressant. On dit, c'est la première fois qu'on a un objet qui semble être prometteur, qui rallie tout le monde. Et puis... Donc,
il y avait une espèce de consensus.
Oui, tout à fait. Et à partir de ce moment-là, ben, on se dit, c'est intéressant parce que c'est un objet qui est rassembleur. Et si un jour on veut être capable de faire du hockey paralympique, il va falloir que ça va prendre un objet. Et là, on pense qu'on a trouvé quelque chose qui peut jouer ce rôle-là.
La clé du succès voûte, peut-être. Oui. Ça nous emmène justement à la deuxième partie de cette émission qui va, ma foi, beaucoup trop vite. On s'en va en deuxième période dans un instant rejoindre François Beauregard qui, lui, nous attend en direct du complexe sportif des Penguins de Pittsburgh. François Beauregard qui est au téléphone. Bonjour François.
Bonjour Kevin, bonjour Steve, bonjour Gilles, vous m'entendez bien?
Oui, bon, on t'entend comme un gars là, qui est dans un aréna à Pittsburgh, mais ça va aller pour la discussion aujourd'hui.
Parfait.
Est-ce que tu peux nous dire si le voyage a bien été?
Oui, le voyage a très bien été, merci. Malheureusement, il n'y a pas de vol direct Montréal-Pittsburgh, mais en fait, c'est pas si loin que ça. Alors voilà, je suis à Pittsburgh pour participer à un événement qui est le USA Blind Hockey Summit. Il va y avoir une soixantaine de joueurs handicapés visuels, une trentaine du Canada, une trentaine des États-Unis, qui vont former 6 équipes. Et il va y avoir un tournoi donc ce week-end à partir de cet après-midi jusqu'à dimanche soir.
Puis là, donc, c'est des gens qui viennent du Michigan, de New York, de Toronto.
Au Canada, il y a des gens de Vancouver, Calgary, Edmonton, Toronto, Montréal, Halifax. Et des États-Unis, il y a des gens de New York, Washington, Chicago, Californie, ainsi de suite. Alors, c'est un événement important dans notre saison, dans notre calendrier. C'est de valeur que Gilles n'y soit pas, mais ça...
Est-ce que c'est un élément manquant à votre alignement, là, Gilles?
On aimerait que Gilles y soit, mais on peut pas tout avoir.
Il va y avoir un trou à gauche.
Un tournoi ouvert comme celui-là, tous les joueurs sont invités à s'inscrire. Mm-hmm. Et après ça, on bâtit des équipes selon les forces en présence. Alors, c'est amical. C'est pas un tournoi Montréal contre Pittsburgh, contre Washington, contre Toronto. Là.
C'est un peu la formule des bâtons tirés au centre de la patinoire avant un match derrière la patinoire.
C'est ce qu'on appelle un tournoi ouvert dans ce sens-là. Il y a d'autres tournois qui engagent des équipes locales, comme il y en a eu un en mai dernier avec Toronto, Montréal, Vancouver. Mais dans ce contexte-ci, mais ce qui est très bien, c'est que ça marque la pénétration du sport du hockey sonore aux États-Unis. Il y a 4 ans, personne aux États-Unis jouait au hockey sonore. Maintenant, ils ont près d'une centaine de joueurs connus et inscrits. Il y a un appui de Hockey USA, qui est l'organisme qui chapeaute toute l'activité du hockey amateur aux États-Unis, hockey luge, paralympique, pas paralympique, mais équipe olympique masculine, féminine, ainsi de suite, tout hockey, toute la structure de hockey mineur aux États-Unis. Et à Pittsburgh, ils sont vraiment chanceux. Le club local de hockey sonore sont commandités par les Pingouins.
Rien de moins.
De Pittsburgh.
En plus,
alors, en ce moment, je suis au centre d'entraînement des Pingouins. Sur la glace, l'entraînement des Pingouins va commencer dans à peu près 20 minutes. Sur la glace, il y a déjà Patrick Holmquist des Pingouins qui fait des heures supplémentaires. Là.
Wow! Moi, je suis vraiment jaloux. Là. Il y a Mathieu à la régie qui voit mon sourire. Celui qui a marqué le but gagnant de la Coupe Stanley, là, qui va jouer sur la même patinoire que vous. Est-ce que tu savais, François, que Zbinek Michalek avait pratiqué avec les hiboux jadis?
Ben, j'étais sur la glace quand Zbinek jouait avec les Hiboux. J'ai même compté un but sur une passe de Zbinek. Alors, c'est un des plus beaux souvenirs que j'ai dans le hockey sonore. Là. Zbinek avait eu la gentillesse de, pendant le lockout. Il était venu jouer avec les Hiboux. Et puis, j'étais à côté du poteau, près du but. Il m'a fait une passe.
Fait dévier.
Ce que j'avais à faire, c'était tenir mon bâton solide. Voilà.
Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un défenseur qui a joué à Pittsburgh et en Arizona. C'est Gilles qui me racontait l'anecdote.
Ouais. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, le hockey sonore se développe beaucoup aux États-Unis. Il va y avoir encore un autre tournoi à Chicago au mois d'avril. Lui aussi commandité cette fois par les Blackhawks. On peut envisager éventuellement que nous aurons une compétition Canada contre États-Unis.
Donc le sport prend énormément d'engouement sur le plan...
Des noyaux d'équipe nationale, oui, tout à fait.
Sur le plan international, le sport prend énormément d'engouement. Et Steve, vous avez vous-même un espèce de mandat de promotion. Vous avez fait faire connaître la rondelle sonore aux différents joueurs de hockey sonore à travers les provinces et les pays. Là. Quelle est leur réaction face à cette rondelle?
Ben en fait, ils sont impressionnés de voir que, d'une part, on est arrivé à un produit qui résiste aux impacts. Donc, c'est super génial. Aussi, au niveau solaire, il y a encore des petits éléments à fine-tuner, mais d'être capable d'avoir un objet qui, lorsqu'il n'est plus en mouvement, continue à être repérable. Je voudrais c'est la grande qualité qu'ils ont retrouvée. Donc, ça permet pour des gens plus lourdement handicapés visuellement d'être capable de jouer, de penser.
Ça accélère la vitesse du jeu parce qu'on peut deviner qu'une canette qui est immobile, qui émet pas de bruit, ça peut prendre du temps, n'est-ce pas, Gilles, avant que les ailiers la retrouvent. Tandis que là, une rondelle sonore, comme elle émet continuellement un son, c'est plus facile d'aller la retrouver.
Oui, tout à fait. Lorsque la rondelle tombe immobile puis que les gens qui ont moins de vision l'entendent plus, c'est difficile de la repérer. Puis là, dans le fond, le jeu devient un peu plus stagnant. Mais avec la rondelle électronique, donc même quand elle demeure immobile, elle continue à faire un bip qui est différent du bip lorsqu'elle est en mouvement. Donc, qui fait comme bip, bip. Et là, ça permet aux gens, indépendamment du type de vision, de pouvoir avoir une chance de la récupérer puis de continuer à accélérer le jeu.
Moi, de ce que je comprends du hockey sonore, il y a une structure qui est en place, il y a un engouement, il y a des règlements qui sont, qui sont normalisés, il y a des tournois d'envergure qui sont commandités par des grandes équipes qui sont en place déjà. Il y a des gens passionnés autour de la table, au bout du fil, qui m'en parlent. Donc la prochaine étape, c'est vraiment de faire de ce sport-là une discipline paralympique. Êtes-vous d'accord avec moi?
Oui, ce qui arrive, c'est que dans un premier temps, on est peut-être à un an près d'avoir une compétition Canada-US. Il va y avoir éventuellement une tournée en Europe de joueurs nord-américains pour faire des matchs de démonstration dans des pays qui sont des bassins naturels de hockey, République tchèque, Finlande, Suède, Russie, peut-être dans certains autres pays également qui ont manifesté de l'intérêt, comme l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Et à ce moment-là, on pourra, parallèlement à la structure du sport adapté pour personnes handicapées visuelles, comme le goalball, entre autres, on va être capable de dénicher des athlètes qui sont aussi naturellement des patineurs, faire naître le sport dans sa pratique, parce que là-bas, ils sont déjà au courant de ce que nous faisons, mais ils n'ont pas commencé à le faire. Et on pourra envisager un tournoi à quatre nations dans, je dirais, quatre ans d'ici. Et l'objectif, pour passer à six nations participantes,
c'est le minimum.
Avoir un minimum pour avoir une prétention paralympique. Et ce serait les Jeux paralympiques d'hiver qui seraient en 2026.
Ce serait l'objectif. Parce qu'il faut comprendre, François, je l'ai dit en début d'émission, vous n'êtes pas seulement un redoutable attaquant, vous êtes aussi vice-président de Hockey Sonore Canada. Donc, ça fait partie de votre mandat là, d'aller faire de la promotion dans les bassins qui ont toujours eu historiquement un intérêt pour le hockey, même le hockey adapté, là, c'est-à-dire les pays scandinaves. Là.
La Russie et certains autres pays en Europe. Il y a également de l'intérêt possiblement en Asie.
Ouais, la Chine, hein?
La Chine a adopté le hockey féminin du Canadien avec des deux équipes maintenant en Chine qui vont venir jouer au Canada. pour faire une tournée une couple de fois cet hiver. Quand si les Chinois décident qu'ils ont qu'il y a du hockey sonore paralympique en Chine, ils vont vouloir faire belle figure. Alors là aussi, c'est une l'avenir s'ouvre à nous. Alors si en ondes vous entendez parler du hockey sonore pour la première fois, eh bien dites-vous que ça ne sera pas la dernière.
Ça ne sera pas la dernière fois. François, on est sur le point de te laisser. Tu as un match après-midi. On te souhaite la meilleure des chances. Puis tu vas même aller voir un match des Pingouins de Pittsburgh, c'est samedi.
Les Pingouins sont vraiment chics. Demain soir, c'est un match au Consol Energy Arena. Alors, on va être invité par les Pingouins de Pittsburgh. On va être une soixantaine dans les estrades. Ils vont jouer contre les Predators. Ça va être un rematch de la finale de la Coupe Stanley. Alors, et là, juste pour vous faire un peu plus salivé, il y a Malkin qui vient passer à côté de moi. Je pense qu'il s'en va dans le vestiaire ou dans le centre d'entraînement physique. Alors, voilà.
Tu peux prendre des photos.
Evgeny Malkin est ici, là.
Prends des photos pour Gilles. Puis surtout, fais attention parce que là, on entend les slap shots rebondir sur la baie vitrée.
La patinoire commence, là. commence à avoir une petite pratique. On sait que les Pingouins se sont fait ramasser 10-1 par les Blackhawks.
Oui.
Alors, je pense qu'il y a...
Il y a un petit peu d'animosité dans l'air.
Ouais, il y a un petit peu de frustration.
C'est une pratique punitive.
Ça va être intéressant à regarder.
Merci beaucoup, François. Bon match après-midi. Merci, puis succès à tous les hiboux.
Merci, bye.
Merci.
Merci à François d'avoir pris le temps de nous parler en direct du complexe sportif des Pingouins de Pittsburgh. Il y a également un tournoi qui s'en vient à Edmonton pour les hiboux. Est-ce que vous allez prendre part à celui-ci, Gilles?
Oui, tout à fait.
Vous allez être là pour celui-ci.
Oui, je vais être là.
Excellent. Est-ce que vous avez des ambitions particulières? Est-ce que vous voulez marquer 3 buts, 4 passes ou vous ne fixez pas d'objectifs individuels?
On y ressent toujours des petits objectifs, mais je disais qu'on va essayer de ne pas se mettre trop de pression parce que je pense que c'est juste de faire une bonne performance, si possible, que l'équipe dans laquelle je serai sorte avec la victoire. Sorte avec la victoire, sélectionnée, mais aussi avoir dans le fond, c'est le fun d'avoir des buts, c'est le fun d'avoir des passes, mais des fois, quand tu fais aussi un bon jeu, ce jeu-là peut apporter à amener ton collègue à faire un but. Donc, c'est vraiment de bien performer chaque jour, chaque chiffre, chaque chiffre.
Gilles Ouellet, conseiller à l'intégration à l'UQAM. Ailier gauche pour les hiboux, ailier droit de temps en temps, et peut-être futur entraîneur de l'équipe canadienne de hockey sonore. Qui sait, à vous entendre parler comme ça, Gilles, vous semblez déjà avoir bien compris le plan de match pour gagner des parties.
Oui, tout à fait.
Et également, merci aux chercheurs de l'école de design de l'UQAM, Steve Vézeau, qui est venu aujourd'hui nous parler de cette merveilleuse création, la rondelle sonore. Qui va se répandre dans les différents amphithéâtres en Amérique, au Canada, peut-être en Europe aussi, on le souhaite, qui fait vraiment la notoriété du Québec et qui montre encore une fois que le Québec est un chef de file, non seulement en technologie en innovation, mais également en hockey. Je dirais même, surtout quand il est question de hockey. Merci beaucoup, Steve.
C'est un plaisir.
C'était vraiment une super émission d'avoir pu parler de hockey sonore aujourd'hui avec vous pendant 20 quelques minutes. Il me reste encore quelques minutes avec vous, le temps de vous lire quelques actualités, donc restez là. Philippe Vachon a établi un record canadien au 100 mètres papillon avec un temps de 1:06:39 lors de la première soirée de l'Open du Canada au Centre sportif panaméricain de Toronto. « Je suis vraiment content, je me sentais très bien dans l'eau », a dit Vachon, qui est originaire de Blainville. « Je pense que le camp d'entraînement en altitude au Nouveau-Mexique a beaucoup aidé. Ma respiration était bien meilleure qu'à l'habitude. » Bien qu'il vienne d'abaisser un record, Vachon pense déjà à ses prochaines épreuves. Le plus important est le 100 mètres d'eau, puisque demain, l'épreuve servira de sélection pour les Jeux du Commonwealth. Je veux vraiment faire de mon mieux. Le Canada avait 4 représentants aux 400 mètres libres. Aurélie Rivard, détentrice du record du monde aux 400 mètres libres S10, a arrêté le chrono à 4:34:08. Je me sentais bien, c'était une bonne course, a dit la native de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ce fut un été difficile, il y a tellement de choses qui se sont produites dans les 2 dernières semaines, alors je suis satisfaite de ma course, c'est un bon brise-glace. On rappelle que la compétition au Mexique avait dû être annulée en raison d'un dévastateur tremblement de terre. Parlons un petit peu de boccia maintenant. Alison Levine de Montréal a quitté Kansas City avec deux médailles de bronze au cou. Elle a affronté Davor Komar, un nouveau joueur de la Croatie, en duel pour la médaille de bronze et elle l'a remporté 3-2. Levine a fait preuve de discipline dès le début de la rencontre en volant un point sur le cochonnet de Komar en première manche et en y bloquant l'accès tout au long du duel. C'était un match très serré, mais j'étais en contrôle. Je sais que c'est une expression très commune à dire, mais j'étais véritablement en contrôle, de dire Levine. C'est un excellent résultat pour celle-ci qui a perdu un match de demi-finale difficile contre le 5e meilleur joueur au monde, le Britannique Stephen Maguire, seulement 2 heures auparavant. Une balle malchanceuse en deuxième manche a laissé la place ouverte à Maguire pour prendre une avance de 5-0. Levine a réussi à réduire l'écart, mais n'a pas pu rattraper son adversaire et s'est incliné 5-3. Parlons maintenant un petit peu de rugby, puisque la Ligue provinciale de rugby en fauteuil roulant a donné son coup d'envoi pour la saison 2017-2018 cette fin de semaine. Il y avait 5 équipes qui se sont faites la lutte pour décrocher les grands honneurs du Sherbrooke Clash 2017. La victoire est allée finalement à la formation de Québec, qui s'est imposée en finale face aux Outcasts dans un match chaudement disputé, qui s'est terminé par la marque de 54-52 dimanche. La formation de la capitale nationale est ainsi parvenue à consacrer sa fiche parfaite, elle qui avait auparavant vaincu les équipes de l'Ontario et de Montréal. Je vois que Mathieu, qui est originaire de Québec, est très fier de ses compatriotes derrière à la régie. La rencontre entre Québec et les Félins a été d'une grande intensité samedi soir. Les deux équipes se sont rendues en deuxième prolongation pour couronner une équipe gagnante. Québec l'a finalement remporté 62-60. Je ne sais pas si vous vous rappelez la toute première émission d'Au Signal que j'ai eu le plaisir d'animer. On avait reçu Nicolas Meunier. On avait également parlé avec Greg Lagacé en direct d'Ottawa pour parler des fameux Jeux Invictus qui allaient se dérouler à Toronto. Là, ils étaient venus en studio quelques heures ou quelques jours avant de quitter pour la ville reine pour cette grande compétition qui rassemble des ex-militaires blessés au combat ou à l'entraînement dans différentes disciplines sportives. J'ai des bonnes nouvelles à vous apporter puisque nos représentants de l'Unifolier, particulièrement ceux du Québec, ont très bien fait. Tout d'abord, Étienne Aubé a remporté l'argent au golf et Julie Marcotte, qui en était à sa première compétition du genre, a remporté l'or en cyclisme. Je vous invite à aller voir mon entrevue que j'ai faite avec Julie sur amitélé.ca, une chouette fille. Très content d'elle pour ses résultats. Merci à Mathieu, à la régie aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Merci à toute l'équipe des Hiboux, à Gilles, à Steve et à François d'être venus nous parler. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.